avec l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et contre la peine de mort.
Bonjour, je suis Bernard Contraire et pour l'ACAT, je vais vous parler du phénomène des disparitions forcées. Lors du dernier appel que tous les mois l'ACAT France propose, il nous est demandé d'agir pour la ratification de la Convention contre les disparitions forcées, en particulier au Congo. Voilà le contexte, vous allez comprendre. Nous sommes le 14 février 2021, aux environs de 2h du matin, dans un quartier de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Alors que tout le monde dort, des individus en uniforme, appartenant à l'unité de police de la Brigade spéciale d'intervention rapide, interpelle Dieu Merveille et Balenini, 19 ans, au domicile de sa tante. Les hommes armés désignent le jeune homme comme étant un membre d'un gang urbain de bébés noirs. Bébés noirs désignent des gangs d'adolescents au Congo. Et ce sera la dernière fois qu'un membre de sa famille le verra. Donc, 14 février 2021. Depuis, Dieu Merveille et Balenini est porté disparu. Les multiples démarches effectuées par sa famille et l'association Centre d'Action pour le Développement pour rechercher Dieu Merveille n'ont pas permis de le retrouver. Les autorités congolaises, responsables de cet enlèvement, gardent le silence sur cette affaire. Aucune enquête n'a été ouverte par les autorités judiciaires. C'est la loi du silence. Les disparitions forcées sont une constante dans le pays depuis des décennies. Durant la récente guerre survenue dans le département du Pôle entre 2016 et 2017, des jeunes hommes au nombre indéterminé, soupçonnés d'appartenir à la rébellion armée, ont disparu après avoir été faits prisonniers par ces forces armées gouvernementales. Ce conflit, passé sous silence international, s'est déroulé à huis clos dans un département fermé à tout observateur. Aujourd'hui, les victimes de disparitions forcées sont majoritairement des jeunes hommes soupçonnés de banditisme urbain. Sur de simples soupçons ou dénonciations, ils voient leur vie en danger du jour au lendemain et peuvent faire l'objet de disparitions forcées, mais aussi d'exécutions sommaires, de tortures bien sûr, dans le cadre de la lutte contre la criminalité. En 2007, le gouvernement du Congo avait signé la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et a accepté de la ratifier suite aux recommandations de ses partenaires et d'instances internationales. Néanmoins, jusqu'à ce jour, aucune démarche. Il est temps pour les autorités congolaises de faire preuve de responsabilité et d'œuvrer contre la pratique des disparitions forcées. Cette ratification serait un premier signal fort. Voilà pour l'appel que l'ACAT a lancé. Alors, qu'est-ce que cette histoire de disparition forcée ? Selon l'article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, c'est un texte de l'ONU bien sûr, elles se définissent par l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a été adoptée le 20 décembre 2006 par l'ONU. Elles disent que ce phénomène constitue un crime contre l'humanité. C'est ainsi que les familles de disparus peuvent demander réparation, en particulier réclamer de connaître la vérité sur le sort de leurs proches. Il est stipulé dans cette convention qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, ne peut être invoquée. pour justifier la disparition forcée. Bon, je ne vais pas m'étaler sur les notions juridiques, mais on peut imaginer quelles sont les conséquences des disparitions organisées ainsi par des États ou des groupes en lien avec l'État. La disparition forcée d'une personne laisse ses proches dans un désarroi total. Aucune démarche légale ne peut être entreprise, puisque le crime n'est pas établi ni circonstancié. L'engloutissement dans l'anonymat total laisse imaginer que celui qui disparaît n'a plus de droit, plus de défenseur, et devient la victime de tous les traitements inhumains possibles, commencés bien sûr par la torture. Sa mort, si elle survient, ne sera pas datée, pas documentée, pas accompagnée. Quelle est l'étendue de ce phénomène? Dans un passé finalement pas si lointain, sous des dictatures, l'Argentine, l'Espagne de Franco, l'Algérie lors des années de plomb de la dictature militaire, le Sri Lanka lors de la guerre civile des Tamouls, nous ont offert de nombreux exemples de pays ayant pratiqué à l'échelon institutionnel étendu la barbarie de la disparition forcée. Les cicatrices de ces périodes noires ne sont pas fermées et la recherche de fosses communes se poursuit encore, pas plus loin pour nous qu'en Espagne aujourd'hui. Mais actuellement alors, actuellement malheureusement la liste est longue, des États qui se livrent à ce crime contre l'humanité. La Russie sur le sol ukrainien par exemple, fait disparaître des opposants certes, mais aussi par centaines et par milliers des enfants qui sont séparés de leur famille et confiés à d'autres familles loin d'eux, là où ils sont nés. Le Rwanda pour ses opposants. Pensons par exemple au jeune poète Innocent Bahati, un jeune poète d'une vingtaine d'années, très connu, qui est disparu complètement. Pensons au Burundi. Pensons à la Chine, bien sûr, avec sa véritable politique génocidaire menée contre les Ouïghours du Xinjiang. Pensons au Mexique, au nom de la lutte contre la drogue, des milliers de jeunes gens disparaissent depuis des décennies. On pourrait allonger la liste, bien sûr. Alors, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire, nous, ici? Aucun de nous, bien sûr, n'est en mesure de changer l'ordre du monde par la force du droit, par la force de son argumentation ou de sa protestation. Alors, à quoi bon? Il me semble pourtant qu'un disciple de Jésus, le Christ, ne peut pas baisser les bras. Jésus passait dans les villages, loin de chez lui. Et son souci premier était toujours de s'approcher des malades, des infirmes, des réprouvés, des abandonnés. Il redressait, il rendait la parole, redonnait une vie sociale, guérissait, ramenait à une vie possible. Prenons-nous vraiment au sérieux les actes et les gestes de celui qui nous inspire? Nous ne sommes jamais seuls. Nous pouvons être solidaires, c'est-à-dire liés, reliés, attachés ensemble, embarqués de concert avec ceux qui n'y arrivent pas, les rejetés, les épuisés, les disparus aussi. Qui parlera pour eux, pour leur famille, pour leurs amis, si nous ne le faisons pas? Chaque fois que nous écrivons à une autorité de cette planète pour lui parler de quelqu'un qu'on a fait, qu'on a laissé disparaître, nous sommes exactement dans la même démarche que lorsque nous prions. Nous essayons d'être habités par l'esprit d'audace et de confiance et animer le Christ, lui qui n'abandonne jamais. Cela ne vient pas, bien sûr, de nos pauvres forces, mais des forces qu'il nous a laissées et que nous pouvons prendre au sérieux. Je vous remercie.
Avec l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et contre la peine de mort.